à Afrique, les infos. À Washington.
John Linden à la présentation. Bonsoir à tous. L'Union africaine a fait part de son inquiétude samedi face à la tension provoquée par la résurgence d'un différend territorial entre Djibouti et l'Érythrée à la suite du retrait de soldats du Qatar déployés dans le secteur disputé entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a appelé dans un communiqué au calme et à la retenue. Le président brésilien Michel Temer commande la plus dangereuse organisation criminelle du pays a accusé le magnat de l'agroalimentaire Josle Batista dans un long entretien d'une virulence inédite publié samedi par l'hebdomadaire Epoca. Les révélations de M. Batista peuvent être fatales pour le président. Elles ont poussé la Cour suprême à donner son feu vert pour l'ouverture d'une enquête contre le chef de l'État pour corruption passive et entrave à la justice. L'opposition ivoirienne a réuni moins de 1000 personnes samedi dans les rues d'Abidjan après l'appel à manifester contre une situation politique fragilisée par les mutineries de soldats en mai. Nous dénonçons un pouvoir répressif, un pouvoir qui n'aime pas la liberté et la démocratie, a lancé aux manifestants le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affine-Guessant. Cette marche de la colère a été l'occasion sous la pluie pour les manifestants d'agiter des pancartes où l'on pouvait lire « On paye le mutin, on méprise le fonctionnaire et libérer Gbagbo ».
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian était hier en Mauritanie dans le cadre de la mise en œuvre de la force conjointe du G5 Sahel. Le 2 juillet prochain, le président français Emmanuel Macron participera au sommet du groupe des 5 à Bamako. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles le président du Centre pour la stratégie et la sécurité dans le Sahara Sahel, Amédou Ould Abdallah.
Il y a une vraie menace ancienne, sérieuse, crédible sur la sécurité dans le Sahel. Comment la confronter? On ne peut plus continuer à blâmer les autres. C'est d'abord une question aussi de nos pays, de notre région, une question de gouvernance, d'accepter nos pays qui évoluent avec leur opposition, leur diversité. On ne peut pas, chaque fois qu'il y a une crise, dire « il faut que les autres payent ». Je pense que les autres doivent contribuer parce que la menace est globale et concerne tout le monde. Ceci étant, passer à 10 000 troupes et vouloir trouver un financement immédiat, c'est un problème colossal. D'après les estimations des experts, 400 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent à mobiliser rapidement. L'Union européenne a promis 50 millions d'euros. C'est bien, mais de mon expérience, il faut préparer les dossiers. On ne va pas donner un chèque. Il faut préparer des dossiers et des arguments. Je suis très content que le président Macron prépare sa visite, mais il faut que nos pays aussi préparent des responsabilités et les assument au niveau des organisations, des forces de sécurité et au niveau de la recherche et de la mobilisation des financements.
Et ça montre le problème de ces pays pour gérer leur propre sécurité.
Effectivement, ce n'est pas maintenant que la combinaison des éléments de sécurité, c'est-à-dire trafic de drogue, de migration, trafic de cigarettes, une certaine gestion difficile de nos pays, plus les rébellions, ce n'est pas aujourd'hui que tout cela se produit dans le Sahel. Donc, il faut agir simultanément des réformes internes. La crainte, c'est que la lutte contre le terrorisme devienne comparable à la lutte contre le communisme dans les années 60-70. C'est-à-dire, attention, attention, il y a des terroristes, aidez-nous. Comme on disait avant, si vous ne nous aidez pas, les communistes vont prendre. Il faut changer de logiciel, avoir des armées professionnelles qui ne sont ni ethniques, ni régionales, ni tribales.
L'Union africaine semble être absente dans tout cela.
L'Afrique est le seul continent où l'organisation veut ou bien on lui demande de tout gérer. Elle ne peut pas tout gérer.
Amédou Ould Abdallah, ancien fonctionnaire des Nations Unies. C'est la fin de ce bulletin d'information présenté par John Linden. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'indispensable émission de VO Afrique, Le Monde au Féminin, émission témoin de la condition des femmes en Afrique et ailleurs. Nathalie Barge, pour vous servir avec moi dans le studio, Karine Kanedza, porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Karine, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci beaucoup Nathalie de m'avoir invitée.
C'est un grand plaisir de vous avoir, d'autant plus que vous venez de très loin, en fait, de, on va dire presque de l'autre bout de la planète quand on est à l'est de la côte des États-Unis, n'est-ce pas? Vous étiez à Seattle, c'est ça?
Exactement. Ouais. C'est vrai que c'est pas la porte à côté.
Alors, je rappelle à nos auditeurs et nos Facebookers qu'on est en direct sur Facebook, le mardi essentiellement. On va parler de la santé des femmes et des enfants dans les crises humanitaires, santé physique et mentale. On va bien mettre l'accent sur les deux points. Alors, j'ai pensé au Burundi, car en fait, le Burundi, on a l'impression que c'est une crise, une crise qui ne dit pas son nom. Au Burundi, on a des chiffres absolument affolant. C'est pas un pays en guerre et les gens quittent ce pays comme s'il était en guerre. Les derniers chiffres du HCR, c'est entre 390 000 et 400 000 réfugiés depuis 2015. On est en 2017, on n'est pas loin de la barre du demi-million. Les chiffres de l'OIM du 9 mai disent que il y a 149 000 déplacés internes. Et il n'y a pas si longtemps, le porte-parole du HCR, William Spindler, avait dit que chaque semaine, des centaines de réfugiés burundais continuer de quitter le pays. Le nombre de personnes fuyant le Burundi a augmenté donc début 2017. Ils vont généralement en Tanzanie, au Rwanda, en RDC, en Ouganda. Et un point important, la majorité de ces réfugiés sont des femmes, des enfants et des personnes ayant des besoins particuliers. Karine, est-ce que vous pourriez nous remettre dans ce contexte? Bien sûr, on sait ce qui se passe au Burundi, mais pourquoi autant de gens fuient ce pays?
Ouais, merci. J'aimerais d'abord relever que vous avez parlé des pays vers lesquels nos réfugiés fuient, mais il y a d'autres pays aussi. Il y a la Zambie, il y a le Mozambique, oui. Il y a l'Afrique du Sud. Ces femmes et ces enfants sont allés aussi loin que ces pays quand même, et par des moyens très rudimentaires. Je relève cela parce que je pense que ça montre le degré de désespoir et de peur en fait. On dit que le Burundi n'est pas en guerre. À mon avis, c'est une guerre, mais une guerre qui n'a pas de nom, parce qu'elle est difficile à identifier. Lorsqu'on parle, notre mouvement côtoie et parle, interagit avec ces réfugiés, femmes et enfants, et à travers d'ailleurs des collaborations et un travail que l'on fait avec d'autres associations, comme la Maison Shalom, qui fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, j'étais à Seattle parce que justement, Marguerite Varanitze vient de recevoir
une récompense,
un doctorat honoris causa, et donc c'est une reconnaissance supplémentaire justement du travail extraordinaire qu'elle fait à travers la Maison Shalom. Donc ce que je voulais dire, c'est que le contexte est très simple et très compliqué. On a un système de la terreur qui est en train de s'instaurer, qui est une machine en fait, qui s'est construit et qui est en marche au Burundi. Lorsqu'on regarde par exemple les réfugiés, d'où est-ce que ces réfugiés viennent? Mais en fait, ils viennent. On parle de réfugiés, mais par exemple, on n'a pas parlé des déplacés urbains. Oui. On n'a pas parlé il y avait des chiffres qui ont été sortis par une organisation internationale il y a quelques mois qui disait que on a une personne sur huit qui est déplacée à l'intérieur du Burundi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un certain récit politique qui dit qu'il y a la paix qui émerge justement du gouvernement du Burundi. Mais la réalité est tout autre. Pourquoi est-ce que ces gens partent? Ben, c'est trois raisons en fait. Donc t'as la première, ce sont les abus. Et lorsqu'on parle d'abus, de violation des droits de l'homme, ce ne sont pas de n'importe quelle violation dont on parle. Et là, nous insistons fortement là-dessus. Parce qu'on parle de disparition, on parle de décapitation. Lorsqu'on lorsque vous suivez les nouvelles locales, on parle de gens, de corps qui sont retrouvés dans les rues, de personnes qui disparaissent, de jeunes qui disparaissent. Nous avons donc c'est la première raison. L'autre raison, c'est que c'est un pays quand même qui a traversé des conflits cycliques depuis une cinquantaine d'années, donc il y a une mémoire qui est là. Il y a une mémoire qui est là, qui est portée par ces gens, et donc ils fuient parce que ils ont peur aussi de voir se répéter ce qu'ils ont vu il y a quelques années.
C'est dans la presse.
Une nouvelle affaire de maltraitance de domestiques mineurs brûlés par ses employeurs a émergé en Birmanie cette semaine. Ils m'ont fait ça parce que j'avais oublié de leur dire que l'eau bouillait, a dit Miat Noé, dont le nom a été changé. Les larmes dans sa voix, interrogée par l'AFP sur son lit d'hôpital à Rangoon. Âgée de 13 ans, elle accuse ses anciens employeurs de l'avoir brûlée au fer à repasser et à l'eau bouillante. La police a depuis interpellé le couple accusé de l'avoir battu. En plus des brûlures volontaires, l'enfant ne recevait que quelques euros par semaine. Quand nous l'avons trouvée, elle avait des blessures sur tout le corps, a expliqué un responsable de l'administration locale à l'origine de la plainte. Elle était enfermée afin de lui éviter tout contact avec le monde extérieur, a-t-il ajouté. Karine Canezza, la condition de ces personnes déplacées, de ces personnes réfugiées, c'est des familles entières, c'est des mamans avec des enfants, avec des petits-enfants, c'est des gens qui sont sur la route de l'exil et ils se retrouvent dans des pays inconnus. Vous avez visité notamment un camp, le camp
Marama.
Voilà, au Rwanda, voilà. Où ils sont plus de 53 000, il a déjà donc dépassé sa capacité initiale. Qu'est-ce que vous retenez de ce camp au niveau de la santé des personnes qui y sont?
Alors, vous savez, c'est difficile à décrire parce que pour la première fois, c'était pas la première fois, mais je pense que pour la première fois de ma vie, parce que j'ai déjà vu, j'ai travaillé dans différents pays, j'ai vu des déplacés, des réfugiés ougandais, sud-soudanais, sierra-léonais. Donc, mais pour moi, personnellement, ça a été très fort parce que on est quand même en 2017.
Ouais.
Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas le récit diplomatique, c'est qu'il n'y a pas de guerre ouverte à proprement dit. Mais regardez, avoir ces femmes et ces enfants en dehors de leur pays, qui sont en train en fait d'essayer de se refaire une vie. Avec des moyens qui n'existent pas, il faut le dire. Donc, t'as un côté l'apatridie, c'est quelque chose de très très fort. C'est très violent, je trouve. Mm-hmm. Et donc être si près, mais si loin en même temps.
Ouais. Si loin de ce qu'ils ressentent.
Si loin.
Si près physiquement, mais si loin
si
de ce qu'ils ressentent.
Si près physiquement, mais si loin de la réalité qu'ils ont laissée. Ça a été vraiment un choc pour moi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même une certaine résilience. C'est un certain esprit indomptable, je dirais, de celui ou de celle qui veut revenir au Burundi. Et donc il y a ceux qui veulent continuer leurs études, qui ont compris que c'est grâce à l'éducation qu'ils vont pouvoir s'en sortir, que sans éducation ils n'ont pas d'avenir. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté, mais il y a aussi des femmes âgées, et ça m'a fortement interpellée. Il y avait un grand nombre de femmes âgées qui sont parties peut-être pour la troisième ou la quatrième fois, qui ont quitté.
On retrouve le même schéma que au Libéria et en Sierra Leone.
Exactement.
Au travers de plusieurs guerres, il y en a effectivement qui avaient fui à plusieurs reprises au fil des ans.
Exactement. Ouais. Lorsque tu leur poses la question, elles te disent, c'est la même histoire au Libéria, c'est la même histoire en Ouganda du Nord, c'est nous avons vu, nous connaissons les signes avant-coureurs. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut retenir, et que lorsque le mouvement des femmes va, et lorsque nous essayons de faire un plaidoyer au niveau des organisations internationales, on leur dit souvent, parce que lorsqu'on regarde tous les rapports sur le Burundi, il y a toujours cette caractéristique, cette condition qu'ils mettent, mais c'est pas, il y a une tension qui n'est pas assez élevée.
Oui, mais il y a une question à se poser quand même, c'est la même question que je vous ai posée au début. Pourquoi tous ces gens s'en vont? Ils s'en vont pas par plaisir quand même. Et c'est ça.
Non.
Donc forcément,
c'est
la peur. Chose.
Ouais. Et c'est la violence.
Ouais.
C'est la violence, c'est la peur. C'est la violence sexuelle. Je me rappelle en 2015, Réfugiés International avait sorti un rapport qui disait que 85% des femmes qui sont réfugiées en Tanzanie ont dit qu'elles ont vu au moins une personne tuée. Donc elles ont été témoins de personnes tuées, et qu'elles ont été victimes de violences sexuelles. Et donc c'est une combinaison de tout ça. Et évidemment un espace politique, un espace d'expression qui se restreint tout le temps. Autre chose que j'aimerais quand même dire rapidement, c'est qu'il y a aussi ce qu'ils voient en termes de préparation paramilitaire. Moi, j'ai dans ma colline par exemple, c'est très clair. Ils vont te dire oui, mais chaque nuit, nous voyons des miliciens qui se prépare à l'arme blanche parfois, pas très loin de chez nous. Donc il y a aussi une psychose qui s'installe au niveau de la population qui fait que les gens, il faut aussi dire, quitter sa terre pour un Africain, où qu'il soit, quel qu'il soit, n'est pas une décision qu'ils prennent à la légère.
Forcément.
Parole de femme.
En ce début du 21e siècle, la question du dérèglement climatique commence à finalement être traitée et pensée de manière plus globale autour de la planète, notamment depuis l'accord de Paris sur le climat. J'ai appelé la présidente de Women Environmental Programme au Burkina Faso, Zainabou Segba, qui explique à quel point les Africaines sont concernées par les questions environnementales.
En général, on présente les femmes effectivement comme les plus impactées. C'est un fait réel. Mais au-delà de ça, vous trouverez que les femmes sont des actrices dans le domaine du développement et du changement climatique. Parce que dans la difficulté, justement, de s'adapter, parce que leur rôle social les oblige à être près de l'environnement, elles ont appris à des techniques pour conserver, pour transformer, pour cultiver, pour produire des aliments, ce qui fait d'elles vraiment des acteurs en matière de changement climatique. Et notre plaidoyer de tout le temps, c'est dire il faut que ces femmes-là puissent participer à la décision en matière de changement climatique. Donc nous sommes réellement des femmes engagées dans le domaine de l'environnement, et nous travaillons à ce que notre voix porte, que notre voix compte, que la voix des milliers de paysannes qui travaillent jour et nuit puissent participer donc à l'effort sur le changement climatique.
Karine Canezza, les camps de réfugiés dans les pays limitrophes du Burundi, notamment, on parle de surpeuplement des camps, on parle d'augmentation du nombre d'arrivants qui forcément exacerbe les problèmes du nombre croissant de personnes dans un espace toujours plus réduit, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui fuient le Burundi, c'est absolument incroyable, tous les jours ça n'arrête pas. On parle d'accès donc aux services sociaux plus ou moins difficiles, protection des enfants, lutte contre la violence sexuelle et sexiste dans les camps même de réfugiés. Et l'on craint l'émergence de crises sanitaires, notamment en Tanzanie, si le surpeuplement s'aggrave et si les installations n'arrivent pas à suivre le rythme, parce qu'on a dans un premier temps un problème de terrain. Maintenant, sur les questions sanitaires, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous? Parce que moi j'ai un souvenir de la Sierra Leone, il y a une quinzaine d'années, tous ces camps en Guinée, etc., il n'y a rien du tout. Et en fait, je me demandais de savoir si 17 ans après, on remarque toujours cette absence de tout dans les camps, sachant que j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien, même pas un matelas, qui devaient quémander pour avoir un matelas. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui, quasiment 20 ans après ?
20 ans après, ce qu'on voit, du moins lorsqu'on rentre dans le camp de Mahama, c'est cette mer de tentes. sont des tentes un petit peu partout. Et il y a rien à l'intérieur. Il y a rien. Il y a des matelas très fins. Il y a des bandes de tissu. Ils dorment un petit peu.
La promiscuité aussi.
Il y a une promiscuité énorme. Et donc, et justement, lorsque j'y étais, on en était à 50 naissances par semaine. Donc ça et donc on a une multiplication du nombre des réfugiés naturels parce que ils sont comme ce sont des comme justement il y a une grande majorité de jeunes aussi ils se marient ils interagissent sexuellement entre eux, il y a une grande transmission de VIH/SIDA du VIH/SIDA il y a une érosion des valeurs. Je me rappelle, je parlais justement à une mère de famille qui me disait que l'un de ses problèmes les plus pressants pour elle, c'était comment faire comprendre à ses enfants qu'ils ne devaient pas, par exemple, courir à gauche à droite entre copains, etc. Et comment instiller en fait cette priorité. Que nos parents ont toujours eu vers les études.
Mais il y a une grosse perte des repères.
Il y a une perte des repères. Il y a une violence aussi qui peut s'installer.
Et les filles sont exposées à ce type de violence.
En Tanzanie, il n'y a pas très longtemps, une femme s'est fait violer quand elle était allée chercher du bois la nuit. Alors ça, c'est un autre aspect. Donc c'est l'aspect, justement, j'y pensais lorsque j'écoutais ce reportage sur l'environnement que vous venez de faire passer, c'est que les femmes vont aller chercher du bois la nuit. Tu as, à un certain moment, il y avait des excursions des miliciens burundais qui passaient de l'autre côté pour les terroriser. Maintenant, par exemple, en Tanzanie, tu as même, on retrouve des situations où la femme réfugiée burundaise est attaquée, molestée par un civil tanzanien, par exemple. Donc, t'as aussi des frustrations au sein de la population du pays hôte.
Et on va voir après ça comment c'est pris en charge justement par le HCR, entre autres, les autorités.
Si je ne pouvais.
Aucun pays d'Afrique n'est vraiment épargné par le chômage des jeunes. Le Burkina Faso recrute chaque année pour l'administration un nombre de postes réduit que doivent se disputer des dizaines de milliers de jeunes. Notre correspondant Issa Napon a rencontré des jeunes sans emploi lors du lancement des concours de la fonction publique à Ouagadougou.
Les jeunes burkinabés se lancent à la chasse à l'emploi dans la fonction publique nationale. Comme chaque année, à cette période, l'État lance ses recrutements. Dans l'espoir de garantir un emploi stable, des milliers de jeunes venant d'horizons divers prennent d'assaut ces concours à l'image de Bouen Puri Tienre Biogo.
C'est ma deuxième fois. En tout cas, c'est pas simple. Depuis ce matin, nous sommes là, mais on n'a pas encore découvert. Il y a beaucoup de gens. Parfois, on peut donner les dossiers là, et puis on dit qu'il y a des erreurs.
Dans les centres de dépôt comme ici au centre du stade municipal de la capitale, comme sur l'ensemble du territoire, les inscriptions sont minutieusement établies. Sur le terrain cependant, postuler à un emploi de la fonction publique relève d'un parcours du combattant, soupire Valérie, une sans emploi.
Pendant une semaine, parce que moi j'ai commencé mes dépôts pratiquement le lundi. Donc la première semaine des dépôts même je n'ai pas pu. Parce que pour aller légaliser les papiers, il faut se lever très tôt pour espérer avoir à 11h comme ça. Et à 11h aussi, si tu viens pour prendre un rang, en ce moment, tu ne peux plus avoir. C'est ma quatrième fois de participer. Présentement, j'ai déposé 6 concours. On espère que cette année, c'est la dernière année.
Des activités de recherche d'emploi qui créent aussi à côté des sous-emplois que s'empressent de saisir quelques jeunes comme Salif, revendeur de documents de préparation.
Nous avons les tests psychotechniques et culture générale, tests de niveau, des tests de niveau là que les gens demandent. Ouais, c'est ça qui achète des prix.
Et même pour rédiger les demandes, des spécialistes sur place monnaient leurs talents. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait.
On revient à la condition des réfugiés, hein, des femmes réfugiées, des enfants réfugiés, notamment un petit rappel sur la RDC aussi, hein, il y a des camps également en RDC, il y a notamment le camp de Lusenda, 70 km du Burundi, sachant que le HCR a grandi le camp plusieurs fois, les abris sont très proches les uns des autres également, on parle de manque de terrain et cela fait qu'il est impossible de donner aux réfugiés des parcelles à cultiver. Karine Canezza, la prise en charge de ces femmes, de ces enfants, des jeunes filles, je pense aux jeunes filles en particulier. Est-ce que vous avez le sentiment que les humanitaires répondent bien à leurs demandes ?
Les humanitaires ne répondent pas à leurs demandes parce que tout simplement, ils ne peuvent pas le faire. C'est une tâche énorme. Je pense que la responsabilité première, en fait, en incombe au gouvernement du Burundi. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, on a le HCR, on a les pays hôtes. Il faut quand même le reconnaître. On a les pays hôtes qui font ce qu'ils peuvent, qui accueillent ces réfugiés, qui leur donnent un espace où vivre. On a le HCR qui leur donne un minimum, le minimum essentiel. Ça, il faut quand même le dire. Mais à côté de ça, il y a des demandes énormes en termes d'éducation, en termes de suivant la catégorie des âges des réfugiés. Je me rappelle, j'ai rencontré d'anciens camarades de classe, des gens qui ont un diplôme en géographie, en histoire.
Vous les avez rencontrés dans les camps de
dans
réfugiés.
Dans les camps.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, leurs sentiments?
Par exemple, ce monsieur qui me dit. J'ai quitté ma maison. J'étais à Ngagara. J'étais dans un quartier. J'étais ici. J'étais là. J'avais une famille. J'étais professeur. J'étais enseignant. Et là, je suis ici. Donc, il y a le ressenti. C'est évidemment un sentiment d'impuissance, mais énorme.
Ouais.
Je suis sûre que vous connaissez la culture africaine. Pour un homme qui a fini ses études, qui s'est battu pour finir ses études, c'est pas une chose facile au Burundi. Finir ses études, se marier, avoir des enfants, en prendre soin et partir.
C'est l'accomplissement de toute une vie
Toute une vie qui disparaît. Et c'est ça qui fait le plus mal. Et ça fait mal à celui qui le vit, mais ça te fait mal à toi qui le vois et qui est fondamentalement impuissante aussi. Donc il y a un côté tragique en fait dans la vie de tout réfugié qu'il faut quand même souligner. Et moi je personnellement j'en reviens toujours. C'est vrai qu'on a tendance à toujours séparer. Ah oui, mais il faut pas parler de politique, il y a la politique et puis ça c'est l'aspect humanitaire. Mais dans un pays comme le Burundi ou en Afrique aujourd'hui, la politique a un côté intime avec la vie des gens, avec les émotions des gens.
Karine, selon vous, de quoi vraiment manquent les femmes et les enfants dans les camps de réfugiés, dans les camps de déplacés? Qu'est-ce qui pourrait améliorer leur vie? Est-ce que c'est les activités?
Bon, là, je vais un petit peu parler d'un centre communautaire pour les réfugiés qui a été récemment ouvert par Maison Shalom. Et en parlant de ce dont ils ont besoin, ce centre, justement, est en train de faire un travail extraordinaire en mettant en place justement des activités qui touchent non seulement à l'aspect éducationnel, mais aussi à l'aspect émotionnel.
Donc, ouais. Il vous reste 15 secondes, je suis désolée.
Culturel, humanitaire, pour essayer justement de reconstruire quelque chose qui va au-delà du physique, qui touche à la dignité.
Absolument. Merci beaucoup, Karine Canezza.
Merci.
Un grand merci à tous nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.